L'actualité francophone avec la RTBF en Belgique, Radio-Canada, la radio-télévision suisse, France Inter et Radio France Internationale. Au sommaire, nombreuses initiatives pour la défense de l'environnement en Belgique une semaine avant les élections législatives. En Afrique de l'Ouest, la chute du prix de la noix de cajou. Le Conseil fédéral suisse veut aider les travailleurs âgés. En France, le procès pour vaste fraude fiscale d'une figure de la droite. Et puis au Canada, transactions financières chez les grands transporteurs aériens. D'abord, les personnalités de la semaine en Belgique. Maxime Dumoulin, nouvelle marche pour le climat hier. Une marche marquée par un soutien de poids.
Oui, le grand chef indien d'Amazonie, Raoni, était à Bruxelles. Aussi célèbre pour son combat que pour le plateau qui occupe sa lèvre inférieure, le chef indigène est venu soutenir la jeunesse belge dans son combat face au monde politique. L'homme de 87 ans a donc quitté la forêt amazonienne pour une tournée en Europe plus déterminé que jamais. Raoni rencontre donc les leaders européens pour leur dire que notre manière de vivre et notre politique doivent changer. Il s'est exprimé aussi au départ du cortège à la gare centrale à Bruxelles.
Personnalité de la semaine en France, les deux membres des forces spéciales, Cédric de Pierrepont, 33 ans, et Alain Bertoncello, 28 ans, tués en libérant des otages au Burkina Faso. Mardi, cérémonie officielle dans la cour d'honneur des Invalides à Paris, en présence des familles et du président de la République. Emmanuel Macron a salué, je cite, « le sacrifice suprême de deux héros ». Image forte, recouvert du drapeau tricolore, les cercueils des deux officiers étaient portés par leurs frères d'armes, des commandos marines au visage masqué pour préserver leur anonymat. La Suisse, Pierre-Henri Chauffat, le président de la Confédération helvétique, a été reçu à la Maison-Blanche ce jeudi.
Après l'annulation de sa rencontre au Forum économique mondial de Davos, le président Uli Maurer était ravi de serrer la main de Donald Trump à Washington. À l'issue des 40 minutes d'entretien dans le bureau ovale, Uli Maurer a livré peu d'informations. Il faut dire que l'éventuel accord de libre-échange entre la Suisse et les États-Unis a pris moins de place que la question iranienne. La Suisse, rappelons-le, représente les intérêts américains à Téhéran depuis bientôt 40 ans. Et sur ce mandat, aujourd'hui pour le moins sensible, Uli Maurer s'est fait très discret.
En Afrique, Charlotte Hydrac, une jeune réalisatrice franco-sénégalaise, Mati Diop, présente son premier long-métrage au Festival de Cannes.
Oh oui, le premier long-métrage de fiction atlantique, fille du musicien Oasis Diop, nièce du cinéaste Djibril Diop Mambéty, surnommé le Godard de Dakar. Mati Diop, 36 ans, entre directement dans la cour des grands avec un film qui mêle documentaire et fantastique. Une histoire d'ouvrier qui décide de quitter le Sénégal par l'océan et de fantômes de disparus en mer qui reviennent envahir la ville.
Benoît Audet, personnalité de la semaine au Canada, un premier ministre provincial.
Oui, Dwight Ball, le premier ministre de Terre-Neuve et Labrador, il a été réélu à la tête de la province, mais son parti n'est plus majoritaire à l'Assemblée législative. Il devra donc compter sur l'aide des autres partis pour se maintenir au pouvoir. Cette élection est la troisième en moins d'un an à donner un gouvernement minoritaire dans les provinces de l'Atlantique. Au cours des derniers mois, le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard ont aussi porté au pouvoir des gouvernements minoritaires.
L'Afrique, Charlotte Hydrac, elle est bonne pour la santé. La plus chère dans la catégorie fruits à coque, c'est la noix de cajou. C'est une richesse de l'Afrique de l'Ouest, mais cette année, les producteurs de la région n'ont pas le moral.
De la Côte d'Ivoire au Bénin, du Sénégal au Burkina Faso, la campagne de cajou 2019 est catastrophique. Les producteurs restent avec leurs sacs sur les bras. En cause, les transformateurs asiatiques qui se sont rués sur la cajou l'an dernier lorsqu'elle était au prix fort. Et ils ont bien du mal aujourd'hui à se débarrasser de leur stock. Pierre Rico est spécialiste de la noix de cajou pour la société d'analyse Nkalo.
En fait, la production l'année dernière a été encore meilleure que ce qui était estimé. Du coup, on a démarré la campagne 2019 avec de gros stocks restants de la campagne précédente. Et à ces stocks restants s'ajoutent de bonnes perspectives de production aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Asie. Donc du coup, on a une suroffre mondiale.
Conséquence des prix divisés par 3 en Afrique de l'Ouest par rapport à l'an dernier. Alors plutôt que de brader sa récolte, ce producteur sénégalais, Joseph Diamakoun, mise sur la transformation.
C'est les natures que la maison appelle les welcome. Bienvenue. Ça, c'est les grès salés. C'est bon. Grès au citron, les gnam gnam.
C'est beaucoup plus rentable que de vendre la matière première. Peut-être que les générations à venir arriveront à trouver au moins de pouvoir répondre à de tels marchés. pour l'exportation.
La transformation, une solution d'avenir, d'autant que les acheteurs internationaux, américains, canadiens, européens, privilégient de plus en plus la noix de cajou transformée en Afrique.
Quelle solution pour enrayer le dérèglement climatique, pour moins épuiser les ressources de la planète? En Belgique, cette thématique reste très présente et à une semaine des élections législatives, les initiatives sont nombreuses, Maxime Dumoulin.
Oui, et chacun y va de ses petites et grandes solutions. Côté entreprise et société civile, il y a le regroupement Sign for My Future. Jeudi, ils ont remis une pétition de poids aux autorités. Ensemble, ils ont présenté 267 000 signatures de Belges appelant les politiques à agir dès la prochaine législature et ils veulent des mesures fortes. Leur message s'articule autour de trois exigences. Un ancrage juridique de l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050, un plan d'investissement pour inciter citoyens et entreprises à la transition et enfin la mise en place d'un conseil indépendant d'experts pour évaluer les politiques menées. Enfin, du côté des jeunes, on le sait, il y a non seulement les marches hebdomadaires pour le climat, mais ce mardi, ces jeunes regroupés sous le nom de Youth for Climate ont déposé eux aussi un rapport rédigé par une vingtaine de scientifiques. Ce rapport répond à plusieurs crises, disent les experts. Crise du climat, de la biodiversité, problème d'aménagement du territoire. Le rapport rappelle aussi que l'innovation et la recherche sont importantes, mais encore faut-il faire quelque chose de ce qu'on a appris. Jean-Pascal Van Ipperzeel, climatologue et ancien vice-président du GIEC.
Il y a énormément de connaissances qui sont déjà là aujourd'hui, qui doivent être mises en œuvre. La plupart des bâtiments sont très mal isolés. Du point de vue thermique, ce sont des passoires thermiques. Ce qu'il faut surtout, c'est, avec une grande volonté politique, mettre en œuvre les connaissances que l'on a déjà aujourd'hui.
Au rayon mesures politiques, le rapport estime aussi qu'il faudrait faire payer le fait d'envoyer de la pollution dans l'atmosphère en compensant par des mesures sociales pour ne pas pénaliser les plus pauvres.
De somptueuses villas à Marrakech et dans les Caraïbes, des fonds occultes transitant par le Panama ou Singapour. Patrick Balkany, maire de la riche commune du nord-ouest de Paris, Levallois, et son épouse Isabelle sont jugés par le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir dissimulé plus de 13 millions d'euros d'avoirs au fisc. Le procès devrait durer jusqu'en juin. Sur le volet fraude fiscale, dès cette semaine, l'accusation, autrement dit le parquet financier, a constaté un acharnement à frauder et a demandé pour Patrick Balkany 4 ans de prison ferme avec incarcération immédiate et 10 ans d'inéligibilité. Depuis 1983, mis à part une parenthèse de 1995 à 2001, Patrick Balkany a été élu puis réélu maire de Levallois, souvent dès le premier tour. Là-bas, le maire est toujours populaire auprès d'une partie des habitants, ce qui stupéfie Jean-Christophe Picard, président de l'association anticorruption Anticor.
Nous, on se pose la question, comment quelqu'un comme lui peut toujours être là, malgré les rapports, malgré les indices concordants, malgré les aveux même de Madame Balkany en 2014 et les aveux partiels de Monsieur Balkany en 2016. Ils sont toujours en place, malgré le rapport calamiteux de la Cour des comptes sur la gestion de Levallois-Perret. Cette affaire montre à peu près les faiblesses de notre République. Tout a dysfonctionné, de l'électeur au président de la République en passant par la justice et les services préfectoraux. Et aujourd'hui, on a Patrick Balkany qui n'est pas encore condamné, qui a déjà annoncé qu'il allait se représenter et peut-être même qu'il va être réélu.
En Suisse, Pierre Anchoffat, les travailleurs âgés doivent être mieux armés pour éviter de perdre leur emploi. C'est en tout cas la volonté du gouvernement.
Oui, avec ces mesures, le Conseil fédéral est parvenu à réconcilier patronat et syndicats, des partenaires sociaux qui tirent à la même corde pour que les plus de 50 ans restent intégrés au marché du travail. Concrètement, le mot-clé, c'est la formation continue. L'État soutiendra notamment les mesures de perfectionnement pour s'adapter à un monde professionnel en mutation rapide.
Cela dit, Pierre Anchoffat, on sait que, passé un certain âge, il devient vraiment très difficile pour un chômeur de se faire embaucher.
Oui, c'est vrai. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de créer une rente-pont pour les plus de 60 ans qui auraient épuisé leurs droits aux allocations de chômage. Pour le patron des affaires sociales, Alain Berset, cette lacune de notre système d'assurance doit être comblée.
C'est vraiment une chose les plus injustes qu'on peut voir. Quelqu'un qui a travaillé 30 ou 40 ans sur notre marché du travail, qui a contribué à la prospérité de la Suisse, qui a le malheur d'arriver au chômage à 58 ans, qui retrouve pas de travail, qui est en fin de droit à 61 ans, il n'a plus que l'aide sociale. Il faut imaginer ce que ça signifie. C'est pas énormément de monde, mais pour les personnes concernées, c'est extrêmement important et nous souhaitons pouvoir apporter là une solution.
Coût de l'opération, moins de 100 millions de francs suisses pour les quelques 1600 personnes qui auraient répondu à ces critères l'an dernier, ce qui paraît finançable pour permettre permettre à ces ex-travailleurs d'atteindre les 65 ans de la retraite légale dans la dignité. Une mesure qui, conjuguée aux efforts d'insertion professionnelle, vise aussi à contrer cette crainte diffuse d'une partie de la population de voir son emploi menacé par l'immigration liée à la libre circulation des personnes.
Il y a du mouvement dans le ciel canadien. Le plus grand transporteur du pays, Air Canada, a annoncé son intention d'acheter son concurrent Air Transat. Benoît Audet, cette transaction à venir n'est pas vraiment une surprise.
Non, il y a quelques semaines, la direction d'Air Transat avait révélé qu'elle était en négociation avec des acheteurs potentiels et le nom d'Air Canada avait alors été évoqué. Les deux parties ont maintenant 30 jours pour finaliser la transaction. Air Canada offre un peu plus de 500 millions de dollars pour acquérir Air Transat. Ça représente près de 340 millions d'euros.
Benoît, cette transaction soulève quand même des questions, notamment pour les passagers.
Oui, en termes de concurrence, surtout Air Canada et Air Transat offrent toutes les deux des vols vers l'Europe et les destinations soleil. Il faudra voir quel effet aura la transaction sur les possibilités offertes aux voyageurs et surtout sur les prix. Il y a aussi la question des emplois chez Air Transat, même si Air Canada n'a évoqué aucune perte de ce côté pour le moment.
Cette annonce d'Air Canada, elle conclut une semaine plutôt occupée dans le domaine aérien au Canada.
Oui, au début de la semaine, une autre transaction était annoncée. Onex, une firme d'investissement de Toronto, annonçait son intention d'acheter le transporteur WestJet, basé dans l'ouest du pays. Cette transaction est beaucoup plus importante. Elle représente 5 milliards de dollars, soit plus de 3 milliards d'euros. Onex avait déjà tenté d'acquérir Air Canada et de la fusionner à une autre compagnie aérienne il y a 20 ans, mais la transaction avait avorté après de multiples rebondissements.
C'était l'actualité francophone. À la semaine prochaine.